Bienvenue sur HTP Radio.
Hiver à Haute-Pierre.
Écoute, c'est pas quoi faire. Il fait froid.
Haute-Pierre, c'est l'hiver.
Écoute, HTP Radio.
HTP Zoo.
On change le climat, on passe du froid au chaud.
HTP Création.
Vas-y, c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller.
HTP.
T'as capté le délire?
C'est chelou, hein.
Ce dont je parlais, moi, comme recours mythologique, théologique, qui fait fond sur une destruction du politique, c'est totalement vrai. C'est précisément parce qu'il y a eu une destruction des conditions de vivre ensemble, de bonheur, comme tu dis, que ces choses-là deviennent séduisantes. Et on est totalement d'accord. Et la réponse, elle ne pourra être que politique. En tout cas, elle devrait être politique en tant que la politique est aussi capable de créer un horizon d'espoir commun. Et pour donner un exemple juste très précis, très ponctuel, il y a tout un tas de délires complotistes sur le gouvernement qui veut voler les enfants. Et ça, ça fait clairement fond, au-delà des questions idéologiques, sur les traitements des services à l'enfance, etc., qui sont dans une précarité délirante et qui forcément créent des maltraitances. À partir de quoi il y a des gens qui sont des parents soit en lutte de garde, soit qui ont eu leurs enfants qui ont de fait été maltraités par des bureaucrates qui les ont envoyés n'importe où. Et forcément, dès lors que la puissance publique fait n'importe quoi parce qu'elle n'exerce plus sa fonction, tu deviens extraordinairement disponible à des théories conspirationnistes, à des théories qui sont des explications qui viennent donner sens à ça. Et ce truc-là, c'est très important, c'est un micro-exemple de ce qui se passe à l'échelle de la société entière, à l'échelle de tout ce qui est de l'ordre du public et du commun. Ça pourra en passer que par là, je suis d'accord.
On a pas mal parlé de la fonction du complotisme là, depuis tout à l'heure, que le complotisme sert à donner du sens, sert à réenchanter le monde, sert à donner des perspectives de l'intelligibilité, etc. Mais je pense qu'au-delà de la question de la fonction sociale du complotisme, y a un truc qu'on ne voit pas trop depuis tout à l'heure, c'est que le complotisme, ce qu'on appelle complotisme, ça n'est pas que de la complexité du monde, parce que le monde il est complexe depuis avant-hier. Quoi, hein. Ça fait un moment qu'on est dans un monde interdépendant, alors dont la complexité est croissante, c'est vrai, mais il n'y a pas superposition entre les deux. Quoi. Et s'il y a un besoin d'interpréter cette complexité, en fait, qu'est-ce qu'on fait habituellement pour avoir du sens dans un monde complexe? On s'en remet à des institutions qui sont historiquement chargées de donner du sens à ça. Ça peut être les médias, ça peut être l'État qui a une grosse fonction de description de ce qu'on appelle le réel, ça va être la science, ça va être voilà, un certain nombre d'institutions qui ont une longue histoire et dont le métier c'est de dire ce qu'il en est de ce qui est, quoi. C'est-à-dire dire voilà, les choses sont comme ci ou comme ça. Et en fait, le principal problème qu'on rencontre actuellement, c'est pas tant que le monde est trop complexe et que du coup, on a des zinzins qui arrivent et qui disent « Ah non, mais en fait, le monde est plus simple que ce que vous croyez », c'est que en fait, les gens dont c'est le métier, dont c'est la fonction historique de dire le vrai, sont frappés par des mécanismes de défiance très très puissants. Si on veut résoudre le problème du complotisme, on est déjà, comme tu disais, pas obligé d'appeler ça complotisme, mais c'est surtout, il faut redonner aux gens des bonnes raisons de faire confiance aux institutions qui sont chargées de dire le vrai. Parce que vous, moi, tout le monde, on a tous besoin, on ne peut pas aller vérifier manuellement tout. On ne peut pas... les réseaux dans lesquels on évolue font que c'est trop compliqué de se faire une opinion personnelle sur la vie économique du pays, ce qui s'est passé le 10 juin 1960. On ne saura pas ça. Donc on a besoin de gens qui nous le disent, on a besoin de gens qui nous fassent confiance. Et alors comment reconstruire cette confiance? Pour moi, c'est ça la grosse question. Et une des pistes qu'on n'a pas trop évoquées pour le moment, c'est... je remercie Yves Citon d'avoir remis un petit peu d'enchantement dans Internet, parce que c'est vrai qu'Internet prend un peu cher. On a eu une grosse phase, Internet c'est génial dans les années 2000, Internet c'est la démocratie, puis là maintenant Internet c'est horrible et c'est l'agent de l'antéchrist. Internet c'est aussi, il ne faut pas oublier cette petite phase, alors sans doute trop euphorique des années 2000, où on s'est rendu compte que oui, c'est des moyens... d'élargir l'accès à l'information, d'élargir l'accès à la participation à l'espace public, Et c'est aussi une des raisons très matérielles et très concrètes pour lesquelles nos institutions font l'objet d'une défiance, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'information alternative. C'est une bonne chose, en fait. Le truc, c'est que c'est un élargissement de l'espace critique, et donc là-dessus, il y a des gens qui ont des agendas politiques tout à fait réactionnaires qui essaient d'en tirer parti, c'est leur job de réactionnaire, il faut pas leur laisser le terrain, et je pense qu'on a des gens qui sont dans ce travail-là aujourd'hui. Et du côté des institutions, il faut essayer de donner des gages sur... il faut me croire, mais il ne faut pas me croire parce que je suis un média reconnu, ou parce que je suis un scientifique éminent, ou parce que je suis un service de l'État, mais il faut me croire parce que voilà la manière dont je travaille, voilà l'histoire de mon métier, voilà mes règles professionnelles, voilà ma routine, mes méthodes, mes instruments. Et en fait, le problème de la complexité, c'est pas tant que le monde est trop compliqué à comprendre, c'est que tous les jours, on peut pas aller refaire l'expérience de comment travaille un journaliste, de qu'est-ce que c'est le rapport du GIEC et comment ils ont construit ce rapport à partir de dizaines d'années de données climatologiques que nous-mêmes, on n'a pas la capacité de comprendre. Donc c'est un travail super ardu. Mais il faut essayer de remettre, je pense, de la transparence dans ces processus de délégation. En fait, pour que la délégation de savoir elle marche, bah, il faut de temps en temps rééprouver le fait que ah oui, ok, vous me dites ça, c'est pas juste au pif, ou c'est pas juste les intérêts économiques organisés qui pèsent sur ce qu'on vous a dit de dire. C'est, je vais finir juste là-dessus, mais c'est Steve Shapin, qui est un historien américain, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Une histoire sociale de la vérité », rien que ça, et qui explique que voilà, qu'en gros, la science, elle a un prestige intellectuel et moral qui dit bah, « la science, c'est les gens qui sont chargés de dire le vrai », et qu'elle a perdu progressivement cette forme d'autorité, notamment en établissement des liens de plus en plus intenses avec d'autres gens qui bénéficient pas du tout de la même autorité morale, qui sont les autorités politiques, l'État, et puis le marché, les grandes entreprises. Et donc, c'est pour ça, la question des vaccins, qu'est-ce qui me dit que ce médecin qui me parle à la télé, qui me dit que le vaccin, c'est bien, en fait, c'est pas un agent de Sanofi ou de je sais pas quoi. Et ben, il faut essayer de remettre de l'explication de, voilà, en fait, on travaille comme ça, c'est pas juste, on n'est pas ni des marionnettes, ni des gens qui disent des trucs au hasard, mais voilà nos méthodes qui nous permettent de parvenir à tel ou tel récit du réel.
T'es tellement watt, je suis fier de watt. Ils sont tellement wack, sont tellement wack, je suis fier de watt. Ouais, toi t'es tellement watt. Bien vu d'avoir trouvé ta personnalité à 12 ans dans la boue au milieu des loups. Bien vu d'être tellement charismatique qu'il te suffit d'être watt et ça y est c'est cool. Non toi ça se voit, faut pas te casser les couilles, faut pas croiser ta route. Y'a que Dieu qui peut te stopper quand tu passes. C'est mieux pour nous d'attendre au niveau des clous. Sérieux, y'a que toi de sérieux, les autres c'est des clowns. Ah, comment tu fais pour être aussi vrai, hein? Moi quand j'essaye je deviens complotiste. Comment tu fais pour être aussi frais, hein? Comment, sans forcer en plus, c'est dans ton génotype. Même si t'as des problèmes, tu sais garder le style. Tu devrais nous filmer ta morning routine. Je suis sûr qu'on aurait des choses à apprendre.
Salut les loulous, aujourd'hui on va voir comment on se maquille les couilles.
Quand je dis va te faire foutre, y'a rien de personnel. Parce que vous êtes tous un peu pareils. Même dans le plus simple des appareils, le tout puissant apparaît, t'es un miracle en toi-même. Real. T'es tellement watt, je suis fier de watt. Ils sont tellement wack. Sont tellement wack, je suis fier de watt. Ouais, toi t'es tellement watt. T'es tellement watt, je suis fier de watt. Ils sont tellement wack, tellement wack, je suis fier de watt. Ouais, toi t'es tellement watt.
Tu disais comment est-ce qu'on peut faire en sorte de redonner de la confiance aux institutions. Alors je propose trois trucs. La 6ème République, on fout tout en l'air, on repense la question. On interdit la propriété privée aux médias et on fait des trucs pluralistes. Et je propose que tous les fact-checkers, Libération, Le Monde, tous les journalistes qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois, qui sont tranquilles à Paris là, se mettent tous ensemble pour ne parler uniquement pendant des semaines et des semaines de Julian Assange, pour qu'on puisse le sortir de prison, parce que lui, avec son Wikileaks, il pouvait nous sortir 10 millions de documents authentifiés. Et là, il n'y a pas de question d'interprétation ou quoi. Les complots étaient là avec les faits, et ça, c'était une bonne solution pour résoudre le complotisme.
à la fois, moi, je suis tout à fait d'accord de retourner vers le passé, Talmant des Réaux, Révolution française, etc. Et en même temps, avec la fin de votre remarque, de se dire qu'il y a quelque chose d'absolument nouveau aujourd'hui, qui est justement l'instantanéité, qui est justement le fait que des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de personnes, plus ou moins au même moment, donc avec des rapidités de contamination ou de circulation ou de communication absolument inédites, que ça fait forcément des résultats sociaux absolument inédits. Et donc je crois qu'il faut à la fois repérer que le conspirationnisme, ça a toujours existé, et que les systèmes techno-machins font que maintenant ça a des effets, ben voilà, on observe, et puis ça a du bon et du mauvais, mais qu'on n'est pas du tout prêt à pouvoir analyser ça.
Oui, en fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Yves, la question des médias et de la technologie, elle est centrale, et en fait on observe qu'à chaque fois qu'il y a un élargissement de l'espace public et un élargissement des possibilités pour le grand public d'interagir, de parler, de produire des contenus, de s'intéresser à la politique, on a des paniques morales du même type que celles dont on est en train de discuter depuis une heure et demie, et depuis hier même. En gros, on a, c'est un sociologue qui s'appelle Cyril Lemieux qui raconte que le moment où la presse cesse de devenir, il y a un progrès technologique au niveau des systèmes d'impression au 19e siècle qui fait qu'on peut faire de la presse à très grand tirage, avec les premiers très très gros journaux qui titrent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, alors qu'avant c'était une histoire toute petite. Et puis on a aussi les progrès de l'instruction publique en parallèle qui font que les gens peuvent s'y intéresser et savoir lire notamment. Et à cette époque-là, on a énormément d'éditorialistes et de responsables politiques qui expliquent que ça va être une catastrophe parce qu'en fait, l'homme de la rue, pas instruit, va lire n'importe quoi dans des journaux démagogiques qui inondent comme ça le marché de la presse. Et que donc la démocratie va, comme chacun l'a remarqué, s'effondrer. Et donc, en fait, voilà, Internet, c'est pas autre chose que une nouvelle technologie d'élargissement de l'espace public qui provoque de manière assez attendue les mêmes discours de réaction et de protection, et donc les discours fondamentalement censitaires, hein, de dire voilà, la démocratie, c'est pas pour tout le monde, et seule une minorité de gens éclairés devraient être en charge du machin. Et effectivement, le revenir sur le temps long permet de dédramatiser beaucoup ces enjeux-là. J'aime bien cette invitation à la tranquillité.
Oui, bonjour. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit par Baptiste Cotras à la fin sur la crise de confiance dans les institutions étant traditionnellement historiquement chargées de détenir et transmettre la vérité, et poser la question de ce que vous pensez ou de ce qu'il y aurait comme référence sur une crise de l'éducation, enfin du coup de l'institution école par rapport à ça. Et en quoi peut-être ces théories ou ces manières de, enfin ces productions de contenu viendraient non seulement en opposition aux médias dits mainstream, mais aussi peut-être à la figure de l'école et des professeurs comme détenteurs et transmetteurs de vérité, avec du coup la question de la pédagogie et de la transmission qui peut exister dans d'autres espaces comme par exemple celui d'Internet, là où peut-être il y en avait moins avant, qu'ils étaient plus localisés dans l'école. Et aussi, du coup, voilà, ce qui m'intrigue dans cette question, c'est qu'il est assez facile de comprendre pourquoi les médias mainstream sont... pourquoi il y a une défiance lorsqu'on considère qu'ils sont justement détenus par des multimilliardaires, etc. Mais du coup, dans la figure du professeur, il y a quelque chose d'un peu étonnant pour notamment ceux qui, ici, peut-être le pratiquent, cette fonction, qui est qu'on sait que voilà, il n'y a pas forcément cette mise au service d'intérêt capitaliste de la fonction professeur, et du coup, dans cette défiance peut-être face à l'école, qu'est-ce qui viendrait alimenter cette crise s'il y en a une, et peut-être que c'est une panique morale que de dire qu'il y en a une.
Oui, c'est une crise des autorités établies. Et le livre qui est là au milieu, A Culture of Conspiracy, qui date de 2003, essaye justement de penser ceci en parlant de savoir stigmatisé. C'est parce qu'un savoir est stigmatisé par les autorités qu'il acquiert un certain prestige. Et la question, c'est pourquoi est-ce que les savoirs d'autorité sont stigmatisés? Et ça vaut pour les médias de masse, ça vaut pour les professeurs, ça vaut pour tout ceci. Et ça, je crois que c'est central, et Baptiste le répétait. En même temps, ce que ça nous dit, c'est que qu'est-ce que doit faire, alors éducation, je ne sais pas, moi je dirais qu'est-ce que doivent faire les études ? Et il me semble que justement les études, l'éducation est à repenser à partir des études qui sont forcément des études de médias, à savoir des études de médiation. Et là, la façon, alors je pense que les gens, ce n'est pas mon cas, mais les gens qui ont travaillé sur QAnon, il me semble, ils le disent tous, c'est sur les conspirations concrètes, c'est il y a à la fois une énorme intelligence collective, une énorme capacité d'information et d'interprétation, qu'on va qualifier de paranoïaque, du fait de moteurs de recherche. Et ça, c'est génial. Et ça accroît notre cerveau individuel, et c'est merveilleux. Mais il y a un déficit des méthodologies dont parlait Baptiste, justement, à savoir que faire de la recherche, c'est pas juste mettre un mot dans Google et regarder tout ce qui vient, ou en général la première page, et puis trouver que ça se répond, qu'il y a une corrélation, mais c'est justement, il y a des procédures de recherche. Et de partager ces procédures de recherche, de faire que les études, ça soit des études pratiques et collectives, de réflexion sur les médiations, sur qu'est-ce qui nous permet de connaître des choses lointaines, ça c'est absolument, il me semble, une des conclusions nécessaires de ce qu'on dit là, de lutte contre le conspirationnisme, et ça implique de changer, alors pas complètement, parce qu'il y a déjà des gens qui font ça, et puis tous les professeurs sont pas des, ou les professeurs d'école sont pas nuls, il y a déjà ça qui est en train de se faire, mais il faut que ça s'accélère, que ça se pense comme tel, et ça implique des transformations énormes dans l'éducation.
Tu disais, et c'est probablement vrai, tu vois qu'il y a un lien entre l'éducation et le complotisme, mais je trouve qu'il y a un lien encore plus fort et plus important entre l'éducation et le fait qu'en France, tu as quoi, 9 millions de personnes qui ont voté Macron il y a quelques semaines, quoi. Et ce vote Macron-là, à la différence du complotisme, ce vote Macron-là va vendre des armes au Yémen qui fait que tu as 500 000 personnes qui sont mortes et que tu as des millions de personnes qui sont dans la famine, dans la sécurité. C'est ce vote Macron-là qui va faire après que ça va jouer sur les logiques impérialistes qui fait que les deux blocs, les deux puissances économiques et militaires du monde vont bientôt s'affronter et ça va faire un truc dégueulasse. Et c'est précisément cette ignorance-là qui va faire aussi accélérer l'effondrement écologique, etc., etc. Je crois que c'est important aussi dans ce que tu disais, la panique morale, c'est sur ça aussi que je réagissais, c'est de bien évaluer l'importance et la valeur des choses par rapport à une conceptualisation qui existe, qui est vrai, tu vois, sur le complotisme, etc., et la violence du monde dans lequel on est et l'absolue nécessité qu'on a de le transformer. Et je crois qu'il y a vraiment une échelle à mettre entre les deux et une importance à donner. Voilà.
HTP Radio, c'est fini.
Tchuss.
Tu peux nous retrouver sur htpradio.org.
Gueule chereuse. HTP Zoo.
Allez, ciao, HTP.
À plus dans le bus.
HTP. C'était chelou. Salut, ciao, HTP.